Laurence Thomas, bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Après 13 ans de tutelle, la justice américaine libère la chanteuse Britney Spears. Dernières heures décisives à Glasgow, l'accord final de la COP26 bloque sur l'aide financière aux pays pauvres. Nous reviendrons sur le viol d'une jeune militaire à l'Élysée, une enquête judiciaire est ouverte. Apaiser la Libye, 10 ans après la chute de Kadhafi, Paris, Berlin, Rome, au chevet du processus électoral de décembre prochain, la conférence internationale avait lieu hier à Paris.
Les invités de cette matinale, dans 20 minutes, Jérôme Cadet, vous recevrez
Melinda French Gates et Forrest Whitaker. Elle co-préside avec son ex-mari la puissante fondation Gates, très active dans la lutte contre le Covid. Elle plaide pour une levée temporaire des brevets sur les vaccins. Lui, grand acteur américain, se bat pour la paix dans le monde et va investir en Seine-Saint-Denis. Ils sont en France à l'occasion du Forum mondial pour la paix de Paris et sur Inter dans 20 minutes.
Et à partir de 8h20 ce matin, notre invité Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche.
France Inter. Après des mois de procédures, de rebondissements et de larmes, la chanteuse américaine Britney Spears retrouve sa liberté. Un tribunal de Los Angeles met fin à 13 années de tutelle. L'artiste de 39 ans avait déjà obtenu fin septembre que son père soit suspendu de son rôle de tuteur. Elle était soutenue d'ailleurs depuis des années par une armée de fans qui réclamaient sa libération, des fans qu'elle a immédiatement remerciés sur son compte Instagram. Sébastien Paour.
Elle n'avait pas fait le déplacement, mais Britney Spears salue la fin de son calvaire par une vidéo sur les réseaux sociaux. Des fans habillés en rose qui crient et jettent des cotillons devant le tribunal de Los Angeles. Vidéo accompagnée de quelques mots. « Bon Dieu, j'aime tellement mes fans que c'en est dingue. Je pense que je vais pleurer le reste de la journée, le meilleur jour de ma vie. » 13 ans que la star de 39 ans attendait cette décision. Elle était sous tutelle de son père Jamie depuis 2008, après des troubles psychologiques. Elle expliquait avant l'été qu'elle était traumatisée, déprimée par la mesure, qu'elle ne contrôlait plus rien de sa vie, qu'elle voulait retrouver sa liberté, qu'on l'empêchait de se marier et d'avoir d'autres enfants. Son nouvel avocat a finalement obtenu gain de cause. Il a aussi fait ouvrir une enquête sur la gestion des affaires de la star par son père. Une nouvelle audience est prévue le mois prochain. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
La COP26 joue les prolongations. Le sommet climat de Glasgow devait s'achever hier soir, mais les quelques 200 pays signataires de l'accord de Paris remettent l'ouvrage sur le métier pour tenter d'arracher ce samedi un accord destiné à freiner le réchauffement de la planète. Au cœur des tensions, l'enveloppe financière pour aider les pays les plus pauvres, les moins responsables du changement climatique, mais en première ligne face à ses conséquences. Autrement dit, Sandy Dauphin, la nuit a été courte pour la présidence britannique de la COP26. Elle doit proposer aux délégués une nouvelle version de la déclaration finale ce matin aux alentours de 9h.
Oui, ce sera la troisième mouture du projet de déclaration finale. La précédente version a été discutée hier après-midi pendant 3 heures en séance plénière, mais il n'y a toujours pas de consensus sur tous les points. Or, dans le cadre des Nations Unies, le texte doit convenir à toutes les délégations pour être adopté. Le choix de chaque mot compte. Jusqu'à présent, les discussions bloquent notamment sur la question de l'aide financière pour faire face au réchauffement climatique. Hier, le Premier ministre Boris Johnson a lancé un appel aux pays riches pour, je cite, « mettre de l'argent sur la table ». Jusqu'à la dernière minute, il y a des tractations en coulisses, des réunions entre ministres, des discussions. Ce matin, on ne sait toujours pas quand se terminera la COP26. En attendant, dans le centre des congrès de Glasgow, on commence à ranger les plantes et à démonter des éléments du décor.
Sandy Dauphin, la situation épidémique du Covid-19 continue de se dégrader en Europe. Les Pays-Bas se reconfinent partiellement à partir de ce soir et pour 3 semaines. Une série de restrictions sanitaires qui touche notamment le secteur de la restauration. Et pour protester contre ces nouvelles mesures, environ 200 manifestants se sont affrontés hier soir avec la police anti-émeute devant le ministère de la Justice et de la Sécurité à La Haye. Et puis le chancelier autrichien veut lui confiner les non-vaccinés. Il attend pour cela le feu vert du Parlement. Et par ailleurs, Vienne, la capitale, a commencé à vacciner les 5-11 ans. C'est une première dans l'Union européenne. Lisa sera poursuivie pour dénonciation de crimes imaginaires. La jeune joggeuse de 17 ans qui avait donc disparu. Mais coup de théâtre hier en Mayenne, hein, la joggeuse qui avait disparu dans la forêt de Bellebranche à Saint-Brice en Mayenne a reconnu devant les enquêteurs avoir menti et ne pas avoir été enlevée. Lors de son audition d'hier, elle a regretté d'avoir provoqué une mobilisation coûteuse et inutile de 200 gendarmes. Franck Lavier, l'un des acquittés de l'affaire Outreau, est renvoyé devant les assises du Pas-de-Calais pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur l'une de ses filles qui était à l'époque âgée de 15 ans.
Le palais de l'Élysée a-t-il été le théâtre d'un viol ? Une enquête judiciaire a été ouverte.
Une femme, une militaire, a déposé une main courante, c'était le 2 juillet dernier. Elle accuse l'un de ses collègues de l'avoir violé au cours d'une soirée après un pot de départ. Il a été placé sous le statut de témoin assisté. Tous deux étaient affectés à l'état-major particulier du président de la République. Et cette affaire, Maxence Lambrec, a tout de suite été prise très au sérieux.
À peine une demi-heure après la publication de cette information hier par nos confrères de Libération, le service de presse de l'Élysée était déjà mobilisé pour nous détailler les mesures prises cet été. Dès que les faits ont été portés à la connaissance des autorités, le militaire en question a été immédiatement muté, réaffecté loin du palais, précise l'Élysée, et la victime a été écoutée, soutenue, accompagnée. Depuis l'affaire Benalla, ajoute une source proche du dossier, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, se veut intransigeant, intraitable, fulgurant. Pas question d'être à nouveau accusé d'un manque de réactivité, d'autant plus sur une affaire de viol. Le parquet de Paris n'a pas non plus perdu de temps. 10 jours après la main courante, ce n'est pas une enquête préliminaire qui a été ouverte, mais une information judiciaire confiée à un juge indépendant. Cette affaire n'a pour l'instant pas été instrumentalisée par les oppositions politiques. Elle n'a, il faut dire, rien à voir avec l'affaire Benalla.
Maxence Lambrec, tous ceux qui tenteraient de perturber les élections prévues en Libye le 24 décembre prochain s'exposent à des sanctions des Nations Unies. Avertissement adressé hier à Paris par la conférence internationale qui réunissait une trentaine de délégations. C'était à la Maison de la Chimie, en présence des deux autorités libyennes actuelles, souvent en conflit, et d'Emmanuel Macron. Bertrand Galichet.
Des élections régulières, inclusives et crédibles, voilà la feuille de route fixée à la Libye par la communauté internationale. La conférence menace de sanctions ceux qui voudraient entraver, remettre en cause ou manipuler le scrutin. Dans cette optique, Emmanuel Macron, organisateur de la conférence, demande le départ immédiat des mercenaires étrangers.
Un premier pas a été fait en effet avec l'annonce hier par le comité militaire mixte libyen du retrait de 300 mercenaires qui se préparent au moment même où nous vous parlons à quitter la Libye. C'est un début essentiel qui crédibilise enfin un processus dont nous parlons depuis trop longtemps. Ce n'est qu'un début. La Turquie, la Russie doivent aussi retirer sans délai leurs mercenaires et leurs forces militaires, dont la présence menace stabilité et sécurité du pays et de toute la région.
Une pression internationale qui laisse deux questions en suspens. Quelle garantie pour la tenue des élections avec une loi électorale controversée au sein même de l'exécutif libyen? Et comment s'assurer que le résultat du scrutin sera respecté par les perdants? La date des élections présidentielles et législatives est fixée au 24 décembre. 3 millions de Libyens sur 7 millions d'habitants sont inscrits sur les listes électorales, signe de l'espoir que suscite ce vote dans un pays où règne le chaos depuis plus de 10 ans.
Bertrand Galichet, promouvoir l'art contemporain africain, collectionneurs, musées, grand public sont de plus en plus passionnés par les artistes du continent africain, que ce soit en peinture, en sculpture, en photo ou en installation. Alors pour découvrir et soutenir ces artistes, la foire AKA présente sa 6e édition au Carreau du Temple à Paris. C'est jusqu'à demain soir. 34 galeries exposent, seulement 6 sont africaines, car beaucoup n'ont pas pu faire le déplacement pour cause de crise sanitaire, mais 6 sont tout de même visitables en ligne. Isabelle Pasquier.
L'art contemporain africain fascine car il bouscule nos imaginaires avec des formes, des couleurs, des matières qui réinventent complètement les codes artistiques et qui dénoncent frontalement l'exploitation de l'Afrique dans la mondialisation. Gaël Maski, artiste de Kinshasa, montre les quartiers pauvres encore plus ghettoisés par la crise du Covid, avec des anges qui, comme dans un rêve, apportent des flacons de gel hydroalcoolique aux plus pauvres. Devant une toile monumentale, l'artiste camerounais Jean-David Cotte dénonce le circuit économique délétère de l'extraction de minerais pour nos téléphones, ordinateurs et batteries.
Le tableau que vous avez là devant entre dans le nouveau questionnement dans mon travail, qui est celui de la question des enjeux économiques aujourd'hui dans le monde. Je mets un peu en exergue la condition des personnes qui travaillent dans l'industrie minière et les revenus ne profitent pas à ceux qui travaillent. Ici, on a un peu tout ce qui tourne autour de la circulation, notamment du coltan, du cobalt. Et sans ce minerai, il ne peut pas avoir de téléphone.
Et tourné vers le futur, le jeune artiste ghanéen Prince Diazi capte avec son iPhone un monde qui, malgré la misère, explose de couleurs, de vitalité et d'espoir.
Isabelle Pasquier, donc l'art contemporain africain, c'est au Carreau du Temple à Paris jusqu'à demain soir.
Merci Laurence Thomas. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Oh là là, beaucoup de grisailles hein, ce matin, Jean-Michel Golinski.
Ah, tout à fait, Eric. Un gris très étendu sur la plupart des régions, avec par intermittence des ondées et un vent de nord-ouest assez désagréable au voisinage de la Manche. En journée, le ciel va prendre tout de même un peu plus de couleur sur les régions de l'ouest, entre l'Aquitaine et la Bretagne. Mais le soleil le plus franc, on va le trouver au pied des Pyrénées, ainsi que sur la Corse, les Alpes et du Languedoc-Roussillon à la Provence, mais avec un mistral et une tramontane sensibles. Cet après-midi, les températures à peu près dans les moyennes de saison vont varier entre 8 et 12 degrés du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes et 17 à 19 du Golfe du Lion à la Côte d'Azur, 21 sur la Corse. Il est prévu 13 à Lille ainsi qu'à Brest, 14 dans la capitale et 16 degrés de la Gironde au Pays Basque.
Jean-Michel Golinski, Météo France.